Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine spécial. Mardi 13 janvier, l'association Bressane citoyenne de débat et d'échange, ABCDE, organisait une rencontre-conférence avec le journaliste et fondateur de Mediapart, Edvy Plenel. Nous en avons profité pour le rencontrer et nous entretenir avec lui autour de l'éducation aux médias et à l'information. Une interview réalisée en partenariat avec Fabien Boulet, chargé de mission éducation aux médias et à l'information pour l'Académie de Lyon. Bonjour Edvy Plenel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste depuis de nombreuses années. La profession a connu de nombreuses évolutions, elle a dû s'adapter. Avec Internet et les réseaux sociaux, les sources d'informations sont plus nombreuses. On connaît le fonctionnement des algorithmes et la propagation éclair des fausses infos sur ces canaux. Comment aujourd'hui on fait pour s'y retrouver, pour bien s'informer ?
Il faut d'abord que les journalistes fassent bien leur travail et qu'ils soient au rendez-vous de ce qui est leur rôle social, leur utilité sociale. Un bon menuisier, il fait des établis, des bibliothèques, des meubles. Je prends ce métier-là parmi d'autres. C'est quoi un journaliste ? Est-ce que c'est un blablateur sur des plateaux télé qui dit son opinion ? Vous avez des opinions, j'ai des opinions, nous avons tous des opinions. Elles peuvent être pertinentes, elles peuvent être déraisonnables, elles peuvent être rationnelles, informées, elles peuvent être très dangereuses, très violentes, très virulentes. Ce n'est pas le propre du journaliste. Le journalisme, c'est produire des connaissances sur le présent, lequel est encombré de passé. Des savoirs. Nous vivons une époque bien compliquée, ça part dans tous les sens. On a besoin d'y voir clair. Autrement, on est aveugle, on ne s'y retrouve pas. Et c'est là où le journaliste a rendez-vous avec lui-même. Il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer un journaliste. Il peut être désagréable, pas sympathique. La question, c'est à quoi il sert. Moi, vous l'avez dit, ça fait 50 ans exactement en ce mois de janvier que je fais ce métier professionnellement. Un demi-siècle. Sur un demi-siècle, qu'est-ce qu'on juge ? Est-ce qu'il a été utile ? Est-ce que dans son métier lui-même, quand il a dirigé une rédaction au Monde, quand il a fondé un journal, Mediapart, est-ce qu'il a apporté des informations d'intérêt public ? Utile à tout le monde, quoi qu'on pense, quelles que soient les opinions. Des informations qui obligent à réfléchir, parfois à penser contre soi-même, en se disant « Ah ben, j'aurais pas cru, à ça, j'aurais pas pensé ». Et du coup, la société bouge, la société se met en mouvement. C'est ça l'utilité sociale du journalisme. Je pense que l'époque dont vous parlez, l'époque où, en effet, avec une révolution industrielle, les réseaux sociaux, l'information immédiate, avec des instrumentalisations par toutes sortes de puissances politiques, étatiques, idéologiques, eh bien, dans ce moment-là, le journalisme, il a rendez-vous vraiment avec lui-même. Il a rendez-vous avec sa fonction, j'allais dire, d'éclaireur, d'apporteur de connaissances et de contre-pouvoir aussi, parce que tout ce règne des opinions, il est fait pour qu'on y voit plus clair. Plus du tout clair, je veux dire. Et qu'on soit égaré par le règne des opinions. Mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, ma croyance contre la tienne, mon identité contre la tienne. Ça, c'est la guerre de tous contre tous. Une société démocratique, c'est une société où nous discutons en ayant un accord sur la réalité, sur des faits, sur des connaissances. Et là, c'est l'enjeu démocratique décisif qui concerne notre métier aujourd'hui.
Donc la responsabilité des journalistes, vous l'avez dit, et vous avez parlé du rôle du menuisier, du travail du menuisier, de ces outils qu'il pouvait avoir à portée de main. Un des outils qui arrive en puissance là aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Quel regard, vous avez sur cette arrivée de l'intelligence artificielle et comment peut-être elle pourra être utilisée par les journalistes ?
Il y a un faux ami auquel on s'habitue en français. On appelle ça intelligence artificielle. C'est un anglicisme. Et en fait, comme il y a l'intelligence service, c'est les services d'espionnage, de renseignement britanniques, en fait, le mot intelligence dont nous parlons, c'est du renseignement, c'est-à-dire c'est l'accumulation de données. En clair, l'IA, l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente du tout. Elle accumule, grâce au numérique, des milliards et des milliards de données. Alors, elle peut avoir une utilité pour des choses pratiques, se repérer, s'orienter, la traduction, encore qu'il faut s'en méfier parce qu'il y a des pièges, et le rôle humain qui peut passer derrière peut être utile. Bref, quand on accumule des données très concrètes, parfois, je prends cet exemple, en effet, des repérages quand on est en voiture ou on est en route, c'est possible. En revanche, pour le métier de journaliste tel que je le conçois, qui est d'aller chercher des informations, d'aller chercher des témoignages, et les meilleures informations, ce n'est pas celles qu'on vous donne, c'est celles qui sont cachées, qui sont enfouies. C'est quoi Mediapart ? C'est un journal qui, depuis près de 2 décennies, a révélé un nombre d'affaires pas possible, qui concernent la corruption du monde politique. C'est par exemple emblématiquement l'affaire Sarkozy, mais il y a eu aussi l'affaire Cahuzac, pour ne pas oublier la gauche. Mais c'est aussi des affaires qui concernent toute la société. Les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes, la parole qui n'était pas... C'est pas qu'elle n'était pas libérée, c'est qu'on n'écoutait pas. C'est l'écoute qui n'était pas libérée. Et puis même les violences contre les enfants, c'est l'affaire Bétarab. Je prends des choses qui concernent toutes les familles, tous les univers. Et donc ça, l'intelligence artificielle, elle ne le fera jamais. Donc l'intelligence artificielle, nous, on a une charte à Mediapart, publique. On met ça à sa place, mais vraiment minoritaire. Mais pour nous, notre métier est un métier humain. C'est la collecte d'informations, de témoignages, de documents. La seule façon dont on peut utiliser parfois l'intelligence artificielle, c'est quand nous-mêmes, on brasse des milliards de données. On a des fuites, des leaks, hein, d'énormes documents sur des comptes bancaires à l'étranger. Du coup, on les croise. Mais il y a quelqu'un derrière pour interpréter. Et on ne va pas croire ce que nous dit le résultat. On va croire notre travail. Et donc, je pense qu'il y a une bulle idéologique, une bulle financière peut-être, de l'intelligence artificielle à laquelle il ne faut pas se confier.
Depuis quelques années, l'éducation aux médias est un enseignement important. Et du coup, des journalistes interviennent notamment face à des scolaires. Par ailleurs, on entend récemment une montée de l'importance des compétences fondamentales, un retour vers les compétences fondamentales que sont par exemple lire, écrire ou compter. Et j'aurais voulu vous interroger sur la place du journaliste dans cette mission-là. Qu'est-ce que savoir lire signifie aujourd'hui dans un monde saturé d'informations, d'images et de récits ?
Je vous remercie beaucoup de cette question parce que moi j'ai commencé comme journaliste éducation. J'ai, pendant 10 ans, mon travail a été de traiter les questions d'éducation. Puis après, je me suis occupé des questions de police et de sécurité avant de faire toutes les investigations qui m'ont valu beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis aussi. Et puis de mener des batailles pour l'indépendance du journalisme. Je dis ça parce que je pense que le journaliste, tel que je l'entends, a un combat commun avec les éducateurs. Et l'époque actuelle est une époque où la connaissance, le savoir, est un adversaire de beaucoup de pouvoirs qui voudraient qu'on ne croie que les idéologies qu'ils défendent. Monsieur Trump, à l'échelle du monde, en est le protagoniste principal. Il s'attaque aux universités comme il s'attaque aux médias. Il décrète que les informations... lui, il a des faits alternatifs. Il décrète que les savoirs sur le climat et sur le vivant du monde sont des mensonges et que c'est sa croyance qui est vraie. C'est très, très dangereux. Il peut nous emmener dans un monde où justement, il n'y a plus de rapport rationnel à la réalité. Et puisque vous parliez de lire, écrire, compter, le roman qui raconte un monde comme ça, 1984, de George Orwell, le moment où le héros capitule devant ce monde totalitaire, c'est le moment où il accepte d'écrire que 2 plus 2 égale 5. Et donc, le rapport à la connaissance, à un lien entre nous tous, c'est de s'accorder sur le fait que 2 plus 2 égale 4. Et donc, c'est un enjeu essentiel. Alors, quelle est la participation du journalisme dans un moment comme ça ? D'abord, d'utiliser la part de lumière du numérique. Et c'est ce que nous avons voulu démontrer avec Mediapart. Nous, les fondateurs, j'ai créé Mediapart, j'avais 55 ans. On vient de la presse traditionnelle, la presse papier, la presse de qualité, la presse qui demande un effort pour être lue, qui a du style, qui a de l'écriture. Eh bien, nous nous sommes jetés dans cet univers pour y défendre le meilleur de la tradition. Mediapart, ça veut dire aussi média participatif. Descendre de l'estrade, on n'est pas au-dessus du public. Et on construit une conversation. en montrant qu'on peut faire de la rigueur sur Internet, qu'on peut faire un journalisme mieux documenté, mieux sourcé, mieux explicité, qui rend compte, qui explique ses problèmes, ses contradictions, parfois ses doutes, ses questions déontologiques, et puis pédagogique, qui utilise toutes les armes de la pédagogie pour faire partager son information, mais en allant du côté non pas de l'abaissement, mais du côté d'une certaine hauteur. Nous avions pris d'ailleurs une formule qui, au tout début de Mediapart, l'éditorial à la libération de Paris et de l'occupation et du nazisme en France, toute la France n'était pas libérée encore, un grand écrivain, l'écrivain français le plus lu dans le monde, traduit dans le monde, Albert Camus, était journaliste et dirigeait un journal qui s'appelait Combat. Et il a eu cette formule que j'ai fait mienne à l'époque, sentant ce moment de crise que nous allions traverser, de catastrophe, pourrait-on dire. Il disait « Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, il parlait du journalisme clandestin quand il n'y avait pas de liberté, était d'élever ce pays en élevant son langage. » Et quand vous dites quel est le rôle du journalisme, je vois ce qui pour moi n'est pas du journalisme sur ces médias, non pas d'information, mais d'opinion en continu, ces talk-shows, ce qu'ils libèrent, y compris sur les réseaux sociaux, ce que certaines forces politiques accompagnent. Pour moi, tout ça est d'une grande laideur, d'une grande bassesse, d'une grande violence. Et abîmer les mots, abîmer la langue, c'est aussi comme ça que commence la catastrophe. Donc, pour tout vous dire, et je vais dans votre sens, je pense que dans le moment actuel, nous avons plus que jamais, pour mon métier, rendez-vous avec l'idéal de ce métier. Ce qui fait qu'on est attaqué, forcément, parce qu'on est dérangeant. Pour tous ceux qui voudraient rabaisser tout ça, que la virulence l'emporte, je me souviens d'un président de la République qui a quelques ennuis avec la justice à cause de Mediapart, puisque ce sont des révélations de Mediapart, je parle de Nicolas Sarkozy. Et quand il était président, il avait fait un grand meeting où il avait appelé ses partisans à s'en prendre à la dictature des bons sentiments. Et dans un texte, dans un livre que j'ai fait, j'ai dit « Mais alors quoi ? Ça voudrait dire qu'il faudrait la démocratie des mauvais sentiments ? De la bassesse, de la laideur, de la vulgarité, de la grossièreté ?» Je crois qu'on est dans un moment où cette exigence, et la jeunesse peut tout à fait comprendre ça, car je ne crois pas qu'elle est déterminée par avance. Les enfants aiment le beau, aiment le bon, aiment la camaraderie. C'est des violences de la société, des violences qu'ils peuvent vivre, des injustices qui peuvent les amener à changer par rapport à tout ça. Et je pense que, en tout cas en tant que journaliste et en tant que citoyen, que bonté et beauté, pour moi, c'est un programme politique aujourd'hui.
Comment transmettre, d'après vous, le goût de l'esprit critique sans que cela se transforme en réflexe de défiance systématique, ce vers quoi peuvent aller nos élèves parfois ? Et est-ce que le journaliste peut, en entrant dans l'école, en entrant dans les classes, avoir un rôle à jouer à ce sujet ?
Bien sûr, le danger, c'est de finir par douter de tout et justement qu'il n'y ait plus de vérité et que les seules vérités soient ce que je crois. Nous avons tous vécu ça, y compris dans nos entourages, au moment de la pandémie de Covid, au moment de la gestion autoritaire par les autorités de tout cela, sans explication, sans participation, sans véritable politique participative de santé publique, qui fait que ça mis beaucoup de monde dans un grand désarroi et qui a créé du doute, d'autant plus de doute qu'il y avait un grand mensonge, c'est nous qui l'avons révélé à l'époque, qui était ce mensonge sur les masques, hein, puisque l'irresponsabilité de nos gouvernants, c'est qu'ils avaient détruit les stocks stratégiques de masques. Et c'est nous qui avons révélé cela. C'est pour ça qu'ils ont tardé pour cacher cette destruction irresponsable et qu'ils ont dit au début que ça servait à rien, que c'était une petite grippe, etc. Nous avons révélé cela et donc, du coup, nous avons contribué à ce moment-là à ce que beaucoup de gens doutent des autorités. Mais les mêmes gens qui nous ont appréciés pour ça, une partie d'entre eux nous en a beaucoup voulu un an après, parce que nous avons continué sur la même voie. Ce travail d'information, d'enquête, de rigueur, recoupé, sourcé, documenté. La vérité, ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je peux prouver. Et donc, un an après, nous avons montré qu'une personne qui a séduit beaucoup de politiques, y compris de médias irresponsables, M. Didier Raoult, avec des soi-disant remèdes miracles, était un imposteur, que ses études scientifiques étaient truquées, que dans son institut, il avait une gestion autoritaire. Tout ça a été confirmé par les autorités, mais c'est nous, Mediapart, qui avons montré ça. Et à ce moment-là, une partie de ce public qui nous trouvait très courageux a dit « ça y est, Mediapart, ils ont été achetés par Big Pharma. ils sont venus vendus. » Et donc, quand vous me demandez quel est le rôle d'un journaliste, qu'est-ce qu'il peut faire, le journaliste, c'est pas d'aller dans le sens de la foule, dans le sens du public. Comme un professeur, c'est pas d'aller dans le sens des préjugés que partage ou qui divise ses élèves. C'est de créer du commun par du savoir. Et donc, il faut parfois affronter son public en lui mettant sous les yeux, justement, ce qui va le déranger, l'obliger à penser contre lui-même. Et donc, j'ai souvent dit une formule par rapport à toutes sortes d'univers de convictions militantes, y compris, ça existe aussi dans tous les camps, qui croient que il suffit de croire qu'on pense politiquement juste pour informer vrai. Eh ben non. Dans tous les camps, il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a des impostures. Et donc, le journalisme, c'est sa part de courage, d'audace et de douleur et de difficulté, il doit être aussi d'affronter cela et d'affronter le fait que notre travail, il n'est pas au doigt mouillé, c'est un rapport méthodologique à l'enquête. Et quand un bon journaliste vient expliquer ça devant vos élèves, eh bien, il explique un travail d'enquête. Comme ils feront des recherches pour une dissertation, comme ils font des recherches pour faire un dossier. Hein, je prends souvent comme image ce que j'appelle une enquête qui existe dans toutes sortes de domaines. C'est comme un puzzle. Hein. La réalité, c'est un puzzle. Donc on trouve une pièce, puis on trouve une deuxième. Puis après, on se dit, tiens, là, il en manque une, mais c'est quoi la bonne? Et puis c'est ce puzzle qui va faire le réel. Dans sa complexité, dans sa diversité, toutes les pièces ne se ressemblent pas. Et donc, pour moi, il y a derrière la pratique du métier, il y a quelque chose qui renvoie aussi à une sorte de philosophie, hein, de ce que c'est transmettre des savoirs, transmettre des connaissances, trouver des connaissances. Et je redis qu'aujourd'hui, et c'est la particularité de notre époque, il y a deux libertés fondamentales qui ont marché ensemble, le droit de savoir, c'est là où le journalisme est au cœur, savoir ce qui est d'intérêt public, y compris ce que les pouvoirs ne veulent pas qu'on sache. Et puis il y en a une autre qui est la liberté de dire, voilà, on a le droit d'avoir ses opinions. Mais toutes les opinions ne sont pas légitimes, certaines peuvent être des violences. Certaines peuvent être racistes, peut-être des appels à la brutalité contre les personnes, sexistes et autres. Et aujourd'hui, le risque que nous vivons, c'est que la liberté de dire étouffe le droit de savoir. D'où l'enjeu essentiel de ce métier, d'où la bataille au cœur de ce métier, car nous avons des adversaires qui se disent journalistes et qui sont du côté du règne des opinions, et pas forcément les plus sympathiques ni les plus démocratiques, et d'où l'intérêt sans doute de ce que nous faisons ce soir à Bourg-en-Bresse.
Dans les ateliers qu'on fait avec ces publics, on parle souvent de la neutralité des journalistes. Ça revient vraiment de manière systématique. Dans une vidéo récente que vous avez faite pour Socialterre, vous dites justement que les journalistes ne doivent pas rester neutres face à l'extrême droite. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez expliquer ça. Comment vous l'expliqueriez si vous étiez face à ces publics là en atelier d'éducation aux médias ?
Je vais expliquer deux choses. D'abord, sur ce cliché de dire « est-ce que cette information est neutre ?» Le fondateur d'un journal de référence où j'ai travaillé 25 ans, dont j'ai dirigé la rédaction, Le Monde, Hubert Beuve-Méry, disait « mais la neutralité, l'objectivité, ça n'existe pas. Tout journaliste qui se prétendra neutre et objectif est un menteur. notre métier, on fait de la hiérarchie, on choisit qu'est-ce qu'on va mettre en titre ou en premier de notre journal, on choisit par quoi on va commencer le chapeau, comme on dit, d'un article, l'annonce d'une nouvelle. Donc notre métier est un tri, est une hiérarchie. Donc qu'est-ce qu'on doit demander à notre métier ? C'est l'honnêteté. Hein, l'honnêteté, c'est le fait qu'on est, on s'appuie sur des savoirs et sur des connaissances. Pas mon opinion, et je m'autorise de mon opinion, encore une fois, sur des savoirs et des connaissances. Alors pourquoi, et je dis, ils n'ont pris qu'un tout petit bout dans cette petite vidéo un peu pour promouvoir un de leurs numéros, cette revue Socialterre. Je dis, pour moi, ce qu'on appelle l'extrême droite, et c'est pour ça que j'emploie cette formule, qui ne désigne aucune formation politique, elle a toutes sortes de visages dans le monde. Elle a le visage de Vladimir Poutine, elle a le visage des mollahs iraniens, elle a le visage de Milei en Argentine, elle a le visage de Trump, elle a le visage de toutes sortes de réalités politiques selon les contextes, et évidemment, en Europe, différents visages. C'est un adversaire historique des idéaux qui, pour moi, légitiment le journalisme. Et ce ne sont pas ni ses militants ni ses électeurs que j'insulte en disant ça. Je dis... Voilà, j'essaye de les convaincre, de dire, mais attendez, ce dont vous profitez est issu d'une histoire qui est ce saut, dans le saut de l'ange, j'allais dire, qui est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Nous naissons libres et égaux en droit. Quand c'est proclamé, il n'y a pas de droit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit politique, il n'y a pas de droit république, il y a l'esclavage, il y a les colonisés, il y a le travail des enfants, il n'y a pas de droit des femmes, il n'y a pas de droits sociaux, il n'y a pas de journée de repos, et ainsi de suite. Cette proclamation, comme un idéal, comme un imaginaire, comme un horizon, nous a permis de conquérir des droits, d'inventer des droits et de défendre des droits. Jusqu'à aujourd'hui, et le meilleur exemple, c'est l'éternelle bataille des femmes, par rapport à l'égalité des droits, y compris, on le voit aujourd'hui, sur les violences sexistes et sexuelles qui mettent en cause une très longue durée de prédation du genre auquel j'appartiens. Et donc, nous sommes issus de cela. Pour moi, encore une fois, ce que j'appelle l'extrême droite, ce sont des familles politiques, idéologiques, qui disent non, il n'y a pas d'égalité naturelle, qui pensent qu'il y a une inégalité naturelle. Nous, nous disons, nous sommes... libres et égaux, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Et donc les familles que j'appelle l'extrême droite, c'est celles qui disent, eh ben non, la couleur de peau, il y en a une qui peut être supérieure à une autre. Une religion peut être supérieure à une autre. Une origine peut être supérieure à une autre. Une identité, une culture, et ainsi de suite. Ça, c'est le début de la barbarie. C'est comme ça que la barbarie arrive. C'est quand une partie de l'humanité se déclare humainement supérieure à une autre et en vient à barbariser l'autre. Et donc, ma mise en garde, c'est tout simple, c'est que le journalisme a à voir avec cet idéal démocratique de l'égalité des droits, et qu'un journalisme qui diffuserait la défense de l'inégalité des droits au sein de notre humanité commune, eh bien, il n'est pas au rendez-vous de son métier. Et donc, de ce point de vue, oui, je ne suis pas neutre. C'est la démocratie qui fonde l'idéal démocratique, y compris nous devons le défendre parfois sous des régimes autoritaires qui sont issus d'élections. C'est ça qui fonde ce métier, c'est ça qui fonde le droit de savoir, et je ne peux pas trahir cela. Et si je renonçais à le défendre, je le trahirais. Nul hasard d'ailleurs, les premières cibles des pouvoirs autoritaires, quel que soit leur visage, avant les opposants politiques, ce sont les journalistes. Je serai russe aujourd'hui, je serai soit assassiné, soit en prison, soit en exil. Je prends cet exemple. Donc, et je rappelle que la Russie de M. Poutine a financé l'extrême droite française. Donc c'est très volontairement que je prends cet exemple.
Quand on parle de Mediapart, dans ces ateliers, on a aussi des étiquettes qui sont affublées au journal, de gauche, un journal militant, un peu en lien avec la question précédente. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
Oui, je sais bien qu'on classe Mediapart comme ça. Alors, je réponds de deux manières. D'abord, de manière informative, toutes les affaires qui ont dérangé la gauche depuis ces deux dernières décennies ont été sorties par Mediapart. Donc il y en a pour tout le monde. Mediapart, et ça concerne non seulement la gauche, le Parti socialiste, mais la France insoumise aussi. Et Dieu sait s'il y a des noms d'oiseaux de ce côté-là aussi. C'est un vrai problème français. Regardez l'ampleur de l'affaire Sarkozy ou de l'affaire de Marine Le Pen. Le monde politique est indifférent à la question de l'indépendance, de la justice et de la liberté de la presse. Et nous sommes les cibles de ce monde-là. Mediapart a été qualifié de torchon par deux responsables politiques. Nous ne sommes pas un torchon. On peut dire « ce journal me dérange, ce journal est désagréable, ce journal, je ne suis pas d'accord avec lui ». Mais torchon, non, on n'emploie pas ce langage. Eh bien, M. Sarkozy l'a dit à son procès et M. Mélenchon l'a écrit. Donc voilà ce qu'est Mediapart. Nous sommes totalement indépendants. Alors qu'est-ce qui donne cette image dite militante? C'est que oui, nous défendons, et je l'ai défendu dans tout mon chemin de vie, nous défendons ce métier comme un engagement, mais pas un engagement au sens partisan et idéologique, comme un engagement démocratique. Si je devais définir Mediapart, je dis oui, nous sommes radicalement démocrates. Radicalement, ça veut dire prendre à la racine. On prend à la racine l'idéal démocratique. Et la racine, je voulais rappeler, c'est l'égalité naturelle. Et donc ça veut dire, oui, bien sûr, que Mediapart, par exemple, est engagé sur les discriminations liées à la croyance, les persécutions contre des musulmans, l'antisémitisme, où on ne bargaine pas, évidemment, lié à l'origine, lié à la couleur de peau, le contrôle aux faciès dans la pratique ordinaire des policiers, tout, voilà, et la réalité de la diversité de notre peuple. On est au rendez-vous de cela. Donc voilà, nous sommes, c'est ce chemin de crête que nous défendons. Alors évidemment, ceux qui veulent que nos informations dérangent veulent le ramener à leur univers, à des étiquettes. Donc on nous invente des légendes, hein, pour certains. Comme, heureusement, la jeunesse de Mediapart, ceux qui font Mediapart, ils ont 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de moins que moi. Et heureusement pour eux, ils n'ont pas la vie passée. Mais je suis habitué, moi, à ce qu'on m'invente toutes sortes de légendes. Un jour, je suis agent de la CIA. Un autre jour, je suis pape de l'islamo-gauchisme. Un autre jour, j'ai... Et ainsi de suite. Tout ça, voilà, ce sont des calomnies. Nous faisons vraiment il faut nous juger, encore une fois, sur le résultat. Et il faut nous lire, du coup. Abonnez-vous.
On termine là-dessus, alors. Merci, Edwy Fenel.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre écoute. Restez branchés sur Radio B. À bientôt.